Radio Barc, nous reprenons le cours de notre émission pour une deuxième partie avec notre invité André Hernandez. Très rapidement, avant de passer à la suite, sur ce centre de santé, vous nous avez expliqué qu'il y a des médecins salariés, il y a aussi d'autres personnels.
Oui, on a deux médecins à temps plein, deux médecins à temps partiel, et nous avons également une sage-femme. Et nous avons une infirmière en pratique avancée, c'est-à-dire une infirmière qui a fait davantage d'études et qui vient seconder un petit peu, évidemment avec l'autorisation des médecins, des actes pour des renouvellements de médicaments, etc. Donc ça soulage également énormément les médecins aussi.
Oui, il faut le savoir parce que c'est pas très très courant encore ce profil-là, si je comprends bien.
Tout à fait, puis le centre de santé peut recevoir des spécialistes qui viennent une demi-journée, une journée sur le centre de santé, on peut les accueillir, ils peuvent recevoir du personnel, d'autant plus que vous le savez, nous sommes juste à côté de l'hôpital.
Voilà, j'allais et dire, donc, ça constitue une sorte de pôle maintenant sur la ville de Lézignan.
C'est ça, ça fait une espèce de pôle très important pour la santé, parce que comme on le sait, la santé est une priorité, évidemment pour les Français et évidemment pour les Lézignanais.
Et soulignons pour conclure sur ce chapitre que c'est appelé aussi à se développer dans la mesure où vous avez une structure qui est modulaire et qui peut se développer, s'agrandir facilement.
Oui, c'est ce que je vous avais dit, c'est que c'est un projet évolutif et on peut demain mettre 4 bureaux supplémentaires, donc vous voyez. Si demain on a 5, au-delà, une 6e médecin, 7e médecin, évidemment que nous ferons cet agrandissement, puisque c'est très évolutif et que ça nous permet de le faire.
Et vous envisagez à l'avenir une stabilisation à quel effectif à peu près?
Alors je ne vous cache pas que s'il y avait 6, 7, voire 8 médecins, ce serait vraiment idéal parce qu'il le faudrait. Pour ce territoire et pour cette ville, c'est un petit peu la fourchette haute, un petit peu, mais qu'on peut réaliser.
Pour ce centre, en plus des médecins libéraux, s'il en reste.
Et oui, alors que je leur dis aux médecins libéraux, s'ils viennent s'installer, c'est avec grand bonheur qu'on les recevra.
Hein. Oui, voilà, il ne faut pas qu'ils craignent une exclusion.
Pas du tout.
Ou un ostracisme quelconque.
Pas du tout.
Voilà. André Hernandez, donc, pour rester encore un petit peu dans l'aglo, pour faire simple, alors, la grosse priorité, vous l'avez évoqué, la santé, qu'est-ce que vous mettriez sur vos réalisations? C'est-à-dire le mandat, les choses que vous avez faites en second, par exemple.
Alors peut-être je vous parlerai de la crèche qui va être construite incessamment sous peu. Cette crèche, on y tenait beaucoup parce que celle qui existe dans le centre-ville aujourd'hui, on va dire qu'elle n'est plus tout à fait aux normes voulues. Nous, ce que nous souhaitons, c'est une crèche de plein pied, une crèche dans un beau terrain, lumineuse, éclairée. Et donc, elle sera construite juste à côté de la communauté de communes. Et en même temps, nous allons y mettre un local pour les assistantes maternelles. Et juste à côté, il y a la CAF qui a construit la maison de la famille. Et c'est nous qui allons la gérer. Donc, on aura un pôle là aussi, à la fois enfance, jeunesse et famille, très important, juste à côté de la communauté de communes.
Et alors, je vous ai plusieurs fois entendu parler également à propos de l'aglo, donc du territoire, de l'eau. L'eau, aquatique.
Ah là là, l'eau.
Alors, ça, c'est un sujet sempiternel, je crois.
Alors, c'est un sujet qui nous a beaucoup préoccupés, vous le savez, puisque on disait que la prise de compétence serait obligatoire pour les intercommunalités. Et puis, finalement, il y a eu marche arrière, et donc on a laissé le soin aux communes de choisir d'y aller ou de ne pas y aller.
Alors là,
le résultat aujourd'hui,
c'était pour l'eau potable et l'assainissement.
Et l'assainissement. Oui.
Voilà. Mais il y a un autre volet à propos de l'agriculture et des incendies et des sécheresses. C'est ce qu'on appelle l'eau brute, c'est-à-dire l'eau qui va servir, par exemple, à irriguer. Et là, il y a problème aussi.
Oui, là, il y a problème sur le territoire au regard de la sécheresse. Mais pour revenir sur l'assainissement, sur les 54 communes, 28 nous ont délégué cette compétence. Donc, c'est un service qui va fonctionner à compter du 1er janvier 2026. Nous allons nous occuper pour les 26 communes de l'eau et de l'assainissement.
Oui, donc
voyez, il faut structurer
grosso
ça.
Grosso modo, la moitié, quoi.
Oui, la moitié. Alors, le bourg-centre n'y est pas passé, donc c'est à peu près 11 à 12 000 habitants. On aimerait, évidemment, pouvoir l'étendre, parce que, si vous voulez, enfin, je pense qu'à terme, les communes nous rejoindront, elles verront l'intérêt qu'elles auront à venir à la communauté de communes. Mais voilà, je pense que pour que le service soit optimal, il faudra que d'autres communes nous rejoignent.
Oui, justement, parce que quel intérêt pour des petites communes à rester isolées? Ça sera probablement plus d'inconvénients que d'avantages.
Alors, elles peuvent être sujettes à cela, c'est-à-dire beaucoup plus d'inconvénients. Cependant, certaines communes ont un prix d'eau très bas, Donc elles ont peur, évidemment, c'est légitime, qu'une harmonisation fasse que le prix de l'eau augmente. Elles ont aussi quelques-unes, rares, mais quelques-unes de l'eau en abondance, parce qu'il y a des sources, et donc, elles se sentent, si vous voulez, protégées, mais il faut faire très attention. Vous avez vu dans les Pyrénées-Orientales, où on croyait que les Pyrénées allaient irriguer vita aeternam les communes, ce département est très déficitaire aujourd'hui.
Oui, alors qu'ils ont des gros barrages qui ont été faits dans les années 80, je crois,
et qui ne
suffisent plus aujourd'hui.
Ils subissent la sécheresse autant que l'on si ce n'est plus.
Oui, absolument. Et alors ce qu'on appelle, pour l'assainissement, vous en avez parlé, ce qu'on appelle l'eau brute, c'est-à-dire l'eau qui peut servir, entre autres, à l'irrigation.
C'est un sujet très, très important et très préoccupant.
Alors, l'agriculture n'est pas la compétence évidente d'une agglo, forcément, ça vous inquiète et ça vous concerne.
Alors, non seulement ça nous inquiète, mais on s'en préoccupe beaucoup. Et à ce sujet, vous savez, dans nos corbières, mais pas que dans les corbières, aujourd'hui, les rendements sont insuffisants parce qu'on n'arrose pas. Donc le problème de l'eau devient crucial. Et d'ailleurs, la communauté de communes s'est engagée à faire des forages. Nous en faisons un en ce moment, donc qui est bien entamé à Talleyrand. Et nous en ferons demain un autre qui va débuter dans les jours qui viennent à Campelon pour essayer d'irriguer, ci ou là, 70-100 hectares. Et s'il le faut, si ça a du succès, nous le ferons ailleurs. Mais la survie du département passe par l'eau et par l'arrosage. Parce que si nos parcelles d'agriculture, de viticulture ou autres ne sont pas arrosées, les rendements faibles ne permettront pas aux gens de pouvoir vivre et surtout aux jeunes de s'installer.
Et ça, c'est dans le cas de la viticulture, qui est une agriculture qui demande relativement peu d'eau par rapport à d'autres. Or, il est question d'encourager une biodiversité, il est question d'encourager l'élevage éventuellement. Et tout ça, c'est de l'eau nécessaire.
Parce que beaucoup disent mais on pourrait faire autre chose que de la vigne, mais faire autre chose que de la vigne nécessite également de l'arrosage. Vous voulez faire du maraîchage, quoi que ce soit.
En plus grande quantité.
Si vous voulez faire
même,
des oliviers, si vous voulez faire des amandiers, il faut les arroser. Donc le problème de l'eau reste entier.
Oui. Donc, quand je dis qu'il est sempiternel, vous y reviendrez. En tout cas, il y a des forages, vous l'avez souligné, qui sont en train d'être faits. C'est-à-dire qu'il y a une action qui avance.
On a visité toujours le forage de Talleyrand, on a vu l'eau surgir, ça nous a fait énormément plaisir.
Qui vient de quelle profondeur?
Nous sommes à plus de 200 mètres déjà.
Ah oui, quand même.
Oui. Et à Campelon, nous irons encore au plus bas, puisqu'on doit descendre à plus de 300 mètres.
Ça demande
donc
des
on a eu un hydrogéologue qui a fait des études et ça demande des entreprises spécialisées, un tubage évidemment permanent de ces forages et la mise en place d'une pompe évidemment adaptée. Mais nous avons bon espoir que ainsi le monde viticole d'abord se sente épaulé parce qu'il a vraiment bien besoin et surtout qu'il puisse arroser. Vous disiez que la vigne n'a pas besoin d'eau, elle a quand même mais à certaines périodes elle a besoin d'eau.
Oui, absolument. Et c'est ce dont certains pouvaient douter, mais on s'aperçoit à l'usage que ce n'est pas le cas du tout. Et vous parliez effectivement des rendements qui baissent d'année en année.
Et qui ne permettent pas de vivre. Déjà que le marché est tendu, s'il y a plus, vous n'avez pas de rendement, c'est plus rentable.
Voilà.
Mais vous savez, l'eau d'automne, l'eau de printemps et l'eau qui arrive, comme on dit souvent, le 14 juillet, etc., ça fait beaucoup de bien à la vigne.
Oui, jusque quand elle est naturelle, voilà. Mais quand ça ne suffit pas, il faut faire... Alors, à propos justement d'eau qui tombe du ciel, on parle aussi de barrages ou de retenue collinaire. Est-ce que là, ça, c'est quelque chose qui concerne aussi l'agglo, j'imagine?
Oui, il faut, si vous voulez, voir toutes les pistes possibles pour stocker de l'eau. Des retenues collinaires, je vous ai parlé des fourrages et autres. Il faut tout faire pour permettre aux viticulteurs d'arroser. Donc, il faut vraiment toutes les instances, toutes les collectivités, tous les organismes se mettent vraiment autour d'une table pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est vital pour notre territoire. Je parle là de vie et de mort.
Si
demain il n'y a plus d'agriculteurs, plus de viticulteurs, notre paysage va être complètement défait et nous allons en souffrir énormément, on va s'appauvrir. Donc il faut tout faire pour voir tous les moyens. Alors on parle de via d'Aqua Domitia là, qui
oui, mais c'est un projet
à
long terme,
8, 9, 10 ans, et donc il faut avoir des mesures transitoires, je dirais. Et en plus de ça, Aqua Domitia n'arrosera pas tout le département. Donc je voudrais que tout le monde comprenne que on peut trouver ci et là des solutions. Alors forage, retenue collinaire. On peut faire des barrages dans des endroits peut-être nécessaires, mais voilà, il faut trouver les moyens que nos viticulteurs puissent continuer à vivre de leur travail.
Donc, si vous êtes encore président dans le prochain mandat, ce problème-là vous tracassera de la même façon.
Alors, il me tient beaucoup à cœur et je continuerai à m'engager fortement, parce qu'il me tient beaucoup à cœur.
Alors, passons maintenant, Monsieur Hernandez, à la ville de Lézignan, puisque vous avez expliqué que vous serez candidat au municipal. Vous allez présenter votre liste très prochainement. Depuis un certain temps, on peut le supposer, vous avez travaillé à un programme. Alors là encore, quelles sont les grandes lignes que vous voudriez mettre en avant ?
Alors, on y travaille depuis un bon moment. On y travaille déjà au moins depuis 4 mois, même davantage, avec une équipe de 60 à 80 personnes, et évidemment aussi avec la population, parce que régulièrement, tous les samedis, nous rencontrons un quartier de la ville de Lézignan et nous avons les remontées. Et si vous voulez, les remontées des habitants doivent être en adéquation un peu à ce que nous pensons. Et de là, se sont dégagées des priorités. La première priorité, c'est la sécurité. Est venu ensuite le problème de la propreté également de la ville, le problème de la santé, on l'a évoqué, le problème de la mobilité, le problème des écoles, voilà les premiers thèmes, même s'il y a 14 points, les premiers thèmes que je considérais comme prioritaires.
Alors, on va pas revenir sur la santé, effectivement, mais pour la sécurité, ça peut surprendre dans la mesure où la ville a inauguré récemment un nouveau local, tout neuf, bien équipé pour la police municipale. Qu'est-ce qui, selon vous, ne va pas au point de vue sécurité ?
Alors, si vous me parlez du local, c'est très bien, tant mieux que la police municipale bénéficie d'un local adapté. Qu'est-ce que c'est que je constate ? Je le constate moi, mais c'est surtout le retour des habitants qui se sentent toujours en insécurité. Moi, quand je vais dans la ville, qu'est-ce que je remarque ? C'est que nous avons aujourd'hui, dans cette ville de Lézignan, des quartiers plus ou moins sensibles, et certains très sensibles. Et donc ce que je préconise avec mon équipe, c'est de mettre en permanence et physiquement la présence de la police municipale. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faudra qu'à certains endroits, et je vais citer franchement le cœur de ville, le cœur ancien et le cours de la République, pour moi, il faut qu'il y ait des policiers en permanence dans ce secteur-là.
Et en non permanence, ça veut dire de quelle heure à quelle heure, selon
alors,
vous ?
Je vais dire, d'abord, on veut déborder sur des heures qu'on appelle nous, des heures de nuit, c'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'à 10 heures du soir, on ira. S'il faut aller jusqu'à 11 heures du soir, on ira. On adaptera en fonction des problèmes de tranquillité, parce que on parle de sécurité, c'est aussi un problème de tranquillité. Et donc, dans ces quartiers-là, je veux. Alors, la police fait un travail remarquable, je n'ai rien contre eux, mais ils sont là pour obéir à des missions. Donc nous, c'est la réorganisation des services, les missions autres que nous donnerons, qui permettront à certains endroits d'être beaucoup plus tranquillisés par la présence de police municipale.
Alors les missions, ce sont des choix donc personnels. Quant au matériel, apparemment, il y a un équipement qui est à la fois tout neuf et performant.
Alors, c'est pas ce qu'on me dit.
Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ?
Alors moi, je sais pas, il faudra que je le constate, mais les remontées que j'ai, c'est que la qualité des caméras n'est pas optimale. Donc ça, il faut voir aussi qu'est-ce qu'il y a comme type et quelle est la définition de l'image. Parce que si vous photographiez une voiture qui a fait une infraction, mais que vous n'arrivez pas à lire la plaque minéralogique, à quoi ça sert ? Donc je veux voir aussi, je veux me pencher sur la qualité des caméras qui sont installées sur cette ville.
Oui, voilà. Alors un petit mot sur les mobilités, ça fait partie des axes prioritaires, Monsieur Hernandez.
Alors oui, ça aussi c'est vraiment une priorité dans notre programme. Et là aussi pourquoi ? Beaucoup de services aujourd'hui se sont installés dans la zone d'activité économique. On voit des banques qui sont parties, on voit France Travail qui est partie, on voit des commerces évidemment, la future crèche, etc. Donc il faut que les gens puissent avoir cette mobilité entre le cœur de ville, l'hôpital, le CFA, la gare et la zone d'activité économique. Et pour ce faire, nous voulons mettre en place deux minibus Et comme vous avez sur Narbonne, qui fonctionneront à l'électricité, donc avec des batteries pour le problème environnemental, et qui permettront de sillonner la ville, que les gens pourront emprunter pour aller d'un point à l'autre, et ça permettra évidemment une plus grande mobilité.
Des navettes gratuites.
Alors c'est à réfléchir avec une somme peut-être modique à l'année, on verra. Ça, on n'a pas encore réfléchi à ça. Oui, ça ne sera pas quelque chose, évidemment, qui dissuadera les gens de la prendre.
Oui, et des navettes écologiques, donc électriques, non polluantes, cela s'impose.
Ça s'impose aujourd'hui, tout à fait.
Voilà, on marque, André Hernandez, une seconde pause. On se retrouve dans une troisième partie où on va encore en ajouter un petit peu sur le programme que vous présentez, que vous proposez aux Lézignanais, aux prochaines élections municipales et communautaires.